chers auditeurs, bienvenue sur BAC FM 106.1 pour une émission consacrée à la question des droits des animaux. Nous aimerions apporter un éclairage sur ce sujet en posant quelques questions à une militante niverdaise de l'association L214 qui œuvre pour la défense du droit des animaux, ainsi qu'à une juriste qui met ses compétences au service de l'association. Pascale Gonda, bonjour. Vous êtes une militante de l'association L214. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonjour Emmanuel Fredon. Merci également d'être venu dans le studio BAC FM pour répondre à nos questions.
Bonjour.
Alors, Pascale Gonda, depuis combien de temps êtes-vous militante pour l'association L214 ?
Écoutez, ça fait à peu près une dizaine d'années. En fait, j'étais assez sensibilisée. J'avais entendu parler de L214, qui est une association qui a son siège à Paris, avec notamment Brigitte Gauthier, qui est très sensible à la condition animale, à l'animal d'élevage. Donc, depuis les conditions d'élevage, ce qui touche aussi bien les cochons que les vaches, que les moutons ou les porcs, jusqu'à l'abattoir, en passant par la distribution et les transports d'animaux. J'ai découvert qu'ils avaient ouvert les portes des abattoirs et j'ai été sensibilisée par la condition animale et ce qui se passait derrière les murs des abattoirs. Donc ça m'a sensibilisée à la condition animale. Et en fait, on s'est rencontrés il y a une bonne dizaine d'années de personnes qui étaient comme moi sensibilisées à la condition animale. De la Nièvre, en fait, comme il n'existait pas d'antenne qui s'occupait de la maltraitance à proprement parler, il y a beaucoup d'associations qui s'adressent spécifiquement à certaines conditions, on a décidé de lancer Nièvre 214, qui a pour but de dénoncer toute forme de maltraitance animale et d'essayer d'y apporter une réponse. Et aussi de sensibiliser la population aussi, d'informer et de s'informer.
Alors, quel est votre rapport au véganisme et au végétarisme, etc., ce genre de pratique-là ?
Écoutez, de toute façon, là, je suis végétarienne, et pas tout à fait, parce que je continue quand même à consommer du poisson, des œufs, mais la viande, ça fait quand même une dizaine d'années. Quand j'ai su comment sont traités les animaux, il y a encore des progrès à faire, mais je ne suis pas végane puisque je consomme des produits animaux. Mais j'essaye de ne pas consommer de viande. Après, il est clair que je ne suis pas extrémiste. C'est-à-dire que si je suis chez quelqu'un qui mange de la viande, je ne vais pas refuser. Mais quand je sais que les animaux souffrent, je ne les consomme pas.
Et avez-vous un lieu, un local dans la Nièvre où on pourrait vous retrouver pour peut-être participer à l'association L214 ?
On n'a pas de local à proprement parler parce que en fait, on travaille souvent en collaboration. C'est-à-dire que devant toute plainte, on travaille sur Internet et le travail courant se fait par mail et par Internet et des réunions pour mettre au point les situations rencontrées sont faites par Internet. On fait régulièrement des réunions chez l'un ou chez l'autre, mais on n'a pas de local à proprement parler. Alors, toute personne qui serait intéressée par nous rejoindre, il est clair comment elle sera accueillie. Et on cherche des militants et des bénévoles et on les invitera lors de nos réunions.
Emmanuel Fredon, pouvez-vous nous expliquer votre métier ainsi que votre place dans l'association L214 ?
Alors, moi, je suis juriste. Je travaille dans une cour d'appel, donc à la cour d'appel de Bourges. Donc, mon métier est magistrat. Comme l'a expliqué Pascal tout à l'heure, j'ai répondu à cet appel à candidature pour contribuer à créer une association dénonçant la maltraitance animale au sens large dans le département de la Nièvre. Donc, mon intervention est en lien avec ce que je sais faire, ce que je connais, c'est-à-dire les aspects juridiques de la maltraitance animale. Et il y a aussi un aspect d'information des personnes qui nous saisissent sur comment signaler une situation de maltraitance, à qui s'adresser, quels sont les textes juridiques qui régissent telle ou telle situation de maltraitance.
D'accord. Pourquoi vous semble-t-il si important de défendre les animaux ?
Alors, à titre personnel, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours sensibilisée et intéressée, mais je crois que ça concerne tout citoyen, ça devrait même pas être un centre d'intérêt ou une question de goût, parce que tout simplement, maltraiter des animaux, c'est quelque chose qui est interdit par la loi, qui est moralement condamnable, c'est quelque chose de mal, je ne sais pas comment le dire autrement, et en tout état de cause, essayer d'empêcher qu'on maltraite les animaux contribue à ce que la société soit meilleure, je pense.
Voulez-vous modifier les lois existantes au sujet des animaux ?
Alors, les lois existantes ont déjà le mérite d'exister. c'est peut-être redondant, mais je crois qu'il y a beaucoup de progrès. Hein. La loi sanctionne, et souvent de manière lourde, pour les actes les plus graves, qui sont les actes de cruauté, qui sont les mauvais traitements, qui sont les actes d'abandon, qui sont les actes de nature sexuelle commis sur les animaux. Donc, il y a de la prison qui est encourue. Ça va jusqu'à 3 ans d'emprisonnement encouru. Il faut que les lois soient tout simplement appliquées. Elles existent, appliquons-les. Et notre rôle aussi dans l'association, bien, c'est de sensibiliser les citoyens au fait que ces lois existent et au fait qu'ils peuvent contribuer chacun à leur niveau, chacun à leur place, à ce que ces lois soient appliquées. Donc, les modifier pour le moment, non, je dirais qu'elles sont là, mais appliquons-les.
D'accord. Avez-vous plutôt l'habitude d'obtenir des gains de cause lors de vos interventions ?
On essaie d'obtenir, effectivement, obtenir gain de cause pour nous, c'est quoi ? C'est obtenir que la situation qui nous est signalée comme une situation de maltraitance soit traitée par quelqu'un de compétent, qui peut changer la situation. Donc, nous travaillons avec les refuges, nous signalons des situations de maltraitance à des refuges pour qu'ils puissent envoyer éventuellement des enquêteurs. Nous adressons des courriers aux autorités qui sont susceptibles de répondre à ces situations de maltraitance, aux services de police, de gendarmerie, au procureur de la République, ainsi qu'à la préfecture, aux services vétérinaires en ce qui concerne les animaux de rente, pour signaler des situations. Donc souvent, enfin nous l'espérons, effectivement, la situation est amenée à changer en mieux, en tout cas en fin de maltraitance pour les animaux.
Et dans quel tribunal sont-ils jugés ? Est-ce que c'est un tribunal correctionnel, celui de Nevers peut-être ?
Alors, les actes de maltraitance commis dans la Nièvre sont jugés en vertu de la compétence territoriale par le tribunal correctionnel de Nevers quand il s'agit de délits, quand il s'agit de contraventions, c'est-à-dire, pour parler de manière large, tout ce qui ne fait pas encourir de la prison, c'est jugé devant le tribunal de proximité ou tribunal de police. Donc ça fait encourir, pour la peine la plus lourde, de simples amendes. Et souvent des peines complémentaires qui vont jusqu'à la confiscation de l'animal, qui est confiée à une association de protection animale quand les maltraitances sont avérées. Et quand les faits sont particulièrement graves, l'auteur des faits, quand il est reconnu coupable de l'infraction, peut se voir condamné à de l'emprisonnement. Alors pas toujours à de l'emprisonnement ferme, ça dépend un peu de ses antécédents pénaux et de la gravité des faits, mais il peut y avoir aussi une interdiction définitive. Est-ce que les associations demandent pour éviter la récidive, pour éviter la réitération des infractions, une interdiction définitive de détenir un animal.
Alors aussi, ce que je peux ajouter, c'est que devant tout cas de maltraitance animale ou d'abandon, quelle que soit la maltraitance animale, donc tout témoin d'une maltraitance, on leur demande de prendre des photos, d'essayer d'avoir les coordonnées, l'identité de l'auteur. Donc ça, c'est une chose. Un maximum de renseignements sur l'auteur de la maltraitance ou du délit. Aussi, de prendre des photos par la même occasion, parce que ça fournit la preuve de cette maltraitance. Et puis par la suite, on pourra aller plus loin, c'est-à-dire porter plainte auprès de la police. Et à ce moment-là, s'il y a retrait de l'animal, prendre contact. Nous, on peut prendre contact avec le refuge de Tiernay, avec lesquels surtout Emmanuel est en contact, et qui enverra une inspectrice pour voir vraiment si le fait est réel, et à ce moment-là, d'apporter une solution, comme le retrait de l'animal ou l'aide au maître pour que l'animal soit en meilleure santé.
Y a-t-il des avocats spécialisés ?
Alors oui, il y a des avocats qui se spécialisent essentiellement dans les grandes villes, hein, en matière de... Alors, ils se spécialisent en matière de protection de l'animal, mais de manière plus large en matière de droit de l'environnement et de protection de l'environnement. Les grosses associations de protection animale ont leurs avocats attitrés, hein, qui soutiennent les dossiers devant les juridictions. Mais moi, je le vois dans les formations auxquelles je suis amenée à participer, on a de plus en plus d'avocats qui se spécialise en matière de maltraitance animale, et c'est une excellente chose, parce que les juridictions ont besoin de ces auxiliaires de justice et de leur connaissance des situations et du droit existant pour prendre des décisions adaptées.
Avez-vous des anecdotes curieuses avec des animaux plutôt originaux ?
Alors, on va dire que dans le département de la Nièvre, on n'a pas encore trop confronté à ce qu'on appelle les NAC, hein, c'est-à-dire les nouveaux animaux de compagnie. Moi, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai beaucoup été confrontée à des situations où des particuliers possèdent des serpents, hein, d'extrêmement gros serpents exotiques qui sont enfermés dans de tout petits vivariums et qui sont nourris avec... On avait vu une cage avec des centaines de petites souris blanches qui étaient destinées... vivante, qui était destinée à nourrir le serpent. Donc, c'était, voilà.
C'est ça, il y a même des appels sur, je pense, dans, sur Internet, justement, ces nouveaux animaux. En fait, ils cherchaient des chatons pour nourrir leur serpent.
Alors, c'est,
ça, c'est c'était ça. Dans les grosses villes. Hein, ça,
tout
c'était,
à fait. Alors, ça existe aussi, malheureusement, dans nos départements, parce que moi, j'y ai été confrontée à un moment, mais il faut se dire que ces animaux sont des animaux avant tout sauvages, qui n'ont pas à être détenus ou sinon dans des conditions extrêmement particulières, parce que je dirais que leur place est avant tout dans leur milieu naturel et avant tout dans la nature.
D'accord.
Alors, considérez-vous, toutes les deux, l'une comme l'autre, l'accessoirisation ou la surprotection d'un animal comme une forme de maltraitance ?
Alors, je dirais que la surprotection, pour, c'est quand même paradoxal, hein, on est association de protection contre les maltraitances, donc on va dire que quand les animaux sont protégés, choyés, chouchoutés, voire même parfois un peu trop, je veux dire, on peut être que content. Mais il y a parfois des situations qui sont des situations qui relèvent un peu d'une problématique psychiatrique de la part du détenteur. Je pense à quelque chose qui s'appelle l'animal warding. C'est un terme anglais, mais ça s'appelle le syndrome aussi de Noé. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, sous prétexte de sauver des animaux, les prennent dans la rue et les entassent parfois dans des tout petits appartements, dans des chambres, et se retrouvent dépassées parfois. Alors c'est surtout les chats qui sont concernés, malheureusement, puisque c'est un animal qui a tendance à être retrouvé facilement. On trouve malheureusement encore trop de chatons, de chattes non stérilisées. Et il y a des personnes comme ça qui ont cette espèce de déséquilibre psychologique, voire psychiatrique, et qui entassent chez elles des animaux en ayant l'impression de les sauver, en ayant l'impression de leur rendre service, alors qu'effectivement, elles contribuent, elles multiplient leur souffrance. Donc là, ce n'est pas du chouchoutage, je veux dire, c'est de l'entassement. Mais chez ces personnes, au départ, ce n'est pas la volonté de faire mal, mais c'est la volonté, elles se disent, je leur rends service, j'aime les animaux, je ne comprends pas pourquoi vous me reprochez quelque chose, sauf qu'on voit que les animaux sont les uns sur les autres, ne sont pas stérilisés, se reproduisent à l'intérieur des appartements. J'ai vu des situations où les animaux se mangeaient entre eux, des chatons naissaient et les chattes étaient insuffisamment nourries et les chatons étaient dévorés par les autres chats. Donc ce sont des situations de maltraitance pur et simple, mais on est face à beaucoup de souffrance chez les animaux, mais aussi beaucoup de souffrance chez l'humain, parce que ça révèle effectivement des déséquilibres profonds chez la personne.
Alors moi, je vais te rappeler aussi une situation qu'on avait connue toutes les deux. C'était quelqu'un d'une mairie qui avait une trentaine de chats dans la maison. Donc, c'est-à-dire que plus, je pense, les chiens. Donc, on a été appelés parce que, elle était confrontée à les chats n'étaient pas stérilisés, donc ça posait des problèmes. Ils se reproduisaient sans fin. Et on s'est retrouvés dans un cas, une maison qui était gorgée de chats, une odeur infernale. C'était encore au temps du Covid. Donc, les masques étaient les bienvenus. Mais vous aviez une vingtaine de chats qui étaient sur les meubles. Il y en avait partout. Je pense qu'ils avaient tout nettoyé, mais ils étaient dépassés par les événements. Comme il n'y avait aucun animal qui était stérilisé, il fallait déjà, nous on avait proposé de recenser les femelles pour stériliser les femelles. Et déjà, donc ça a été très très compliqué. En plus, il y avait des dogues de Bordeaux. Donc c'était des maîtres qui étaient dépassés par la situation. Ça, c'est aussi des cas, mais vous parliez de surprotection. Et moi, je pense quand même aussi au lien social que pose l'animal. Beaucoup de personnes âgées prennent des animaux et justement vont surprotéger leur animal. Enfin bon, je pense on a l'habitude de voir des personnes âgées qui promènent un caniche, qui surprotègent leur chien, parce que c'est quelquefois le seul lien social que les gens ont. D'ailleurs, on s'est aperçu que l'animal était quand même souvent un lien essentiel dans notre société où la solitude pose des gros problèmes. On voit de plus en plus de maisons de retraite prennent des animaux. Et moi, je me rappelle que bon, je travaillais à l'époque aux urgences. On a eu une personne âgée, un monsieur âgé, qui avait perdu son chien et qui avait tenté de mettre fin à ses jours parce qu'il avait perdu son unique compagnon. Donc, c'était quand même... et il a eu une grosse dépression. Alors, bon, la première question, mais vous ne voulez pas un autre animal? Mais il dit, vous savez, j'ai 80 ans, je ne vais pas pouvoir reprendre un animal longtemps. Mais effectivement, ce lien social, quand une personne vit qu'avec un animal, il y a peu de rapports sociaux, il y a tendance à le surprotéger. Donc le lien social, l'animal comble un certain vide social, émotionnel et affectif. De plus en plus dans une société où il y a de plus en plus de gens qui souffrent de solitude.
Et si on prend par exemple la situation dans laquelle le monsieur dont vous venez de parler se trouve, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de refuser l'adoption à certaines personnes comme ce monsieur-là, étant peut-être trop âgé pour adopter un animal ?
Après, il y a des solutions. Il y a une possibilité d'adopter des animaux âgés qui permettent quand même de ne pas avoir les problèmes d'éducation quand les animaux sont plus jeunes. Mais c'est une possibilité. Je pense qu'il y a des possibilités avec de faire un contrat avec le refuge de Tiernay en émettant des limitations. Oui, je pense qu'il y a des possibilités.
C'est le moment de marquer une petite pause musicale avec Philippe Catherine, poulet numéro 728-120. On se retrouve juste après sur Bac FM. A tout de suite.
Poulet 728 120, poulet de Vendée, élevé en plein air 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales. Décembre 1998 à l'abattoir de Saint-Fulgent. Électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52 francs 55 chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé, chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Mon poulet, numéro 728-120. Je t'aime, je pense à toi.
Voici de retour dans le studio en compagnie de Pascal Gonda, respectivement militante de l'association L214, et d'Emmanuel Fredon, juriste, pour parler des droits des animaux.
Vous avez peut-être entendu parler des hôtels à cochons en Chine, où il y a des immeubles pouvant contenir jusqu'à 650 000 cochons. Est-il possible de comparer les droits des animaux entre les pays, ici entre la Chine et la France par exemple, et y a-t-il de grosses différences ?
Ne serait-ce déjà que par l'exemple que vous donnez, on est sur des immeubles qui contiennent 650 000 animaux. Je veux dire, l'animal n'est plus considérée dans ce genre de situation, en tout cas pour nous, et je pense que c'est une logique, comme un être vivant, comme un être souffrant, mais comme une chose. Je veux dire, une telle accumulation à viser uniquement de consommation de masse et la négation totale des conditions de bien-être du cochon. Enfin, moi, je l'ai appris parce que nous sommes des gens des villes, nous ne sommes pas des gens des champs, mais on sait que maintenant je sais qu'un cochon, ça aime bien se rouler dans la boue, ça aime bien avec son groin fouir dans la terre, et c'est heureux effectivement quand ça peut s'étendre de tout son long, voilà, faire des tas de choses. Et le cochon est un animal dont on a découvert qu'il avait des liens sociaux avec ses petits, avec les autres animaux. C'est un animal extrêmement intelligent, et faire subir à des animaux ce type de situation d'entassement, non. Ça pose effectivement tout le problème de ce qu'on considère être le bien-être et ce qui prévaut suivant les sociétés. Je veux dire, en Chine, il y a plusieurs milliards de personnes à nourrir. Donc, je pense que pour eux, alors la réflexion est vite faite, hein, nécessité fait loi. Et à partir du moment où on estime qu'on doit nourrir toutes ces personnes, on va employer tous les moyens possibles et imaginables pour satisfaire une demande. Mais je pense que les Chinois aussi, on le sait parce qu'ils ont aussi parmi cette population des gens qui sont sensibles au bien-être animal, s'éveillent, alors on dit la Chine s'éveillera, oui, ils sont en train de s'éveiller aussi certainement au côté complètement incohérent de cette façon d'entasser les animaux.
Dans quel pays, selon vous, les animaux auraient-ils les meilleures conditions de vie?
Alors là, je n'ai pas trouvé si ce paradis existe. Je ne l'ai pas encore trouvé. Je crois que une chose est certaine, on constate, alors on va dire les réseaux sociaux ont leur côté positif et leur côté négatif. Mais dans leur côté positif, on est de plus en plus informé sur ce qu'est la bientraitance, sur ce qu'est, à contrario, la maltraitance. Et j'ai l'impression que les choses changent, les choses évoluent. Les gens sont de plus en plus informés, sensibilisés. Et que je pense à travers l'intégralité des pays. Je veux dire, en France, on est souvent en train de se targuer, de se vanter d'être en avance sur un certain nombre de législations, mais il y a des choses qui se passent chez nous qui ne sont pas tolérables. On ne peut pas regarder les autres pays d'un air suffisant en se disant « chez nous, ça se passe mieux ». Je dirais que, par exemple, je donne à nouveau cet exemple, mais en Italie et en Espagne, la cohabitation avec le loup, qui est une espèce qui est généralement protégée, se passe mieux qu'elle ne se passe en France, où on est encore en train d'abattre sur autorisation préfectorale des animaux. Donc voilà, je pense que tout pays essaye de progresser et que l'information doit continuer à se répandre, et c'est ça qui fera que les choses, on l'espère, iront de mieux en mieux pour les animaux.
Et puis à partir du fait, quand on se dit toute souffrance, on arrête, enfin je veux dire, l'animal n'est pas là pour souffrir, qu'on supprime toute souffrance depuis, même en bien de consommation, on a, je pense que la société qui est quand même, qui progresse, même si c'est une société industrielle, on a les moyens de tuer l'animal sans le faire souffrir, de l'élever dans des meilleures conditions possibles, et peut-être qu'il faudrait revoir notre manière de vivre. De faire une marche arrière sur la production industrielle. Peut-être réfléchir et ne plus consommer comme... réfléchir sur notre consommation. Et là, c'est important de peut-être revoir tout ce qui se passe dans notre société, dans notre consommation.
Et êtes-vous opposé aux tests de cosmétiques sur les animaux?
Oui, tout à fait.
Alors, ils sont interdits, normalement. Hein. La législation européenne les interdit.
C'est ça.
Sauf. Alors, en ce qui concerne les cosmétiques qui sont vendus, notamment vers la Chine, on reparle de la Chine, je suis désolée, mais si une société cosmétique veut vendre ses cosmétiques vers la Chine, elle est obligée de pratiquer des tests sur animaux.
Je n'avais pas ça.
Donc, c'est d'où le devoir d'information, parce qu'on peut avoir l'impression qu'une marque cosmétique se dit clean et ne procède pas à des tests. C'est normal, c'est interdit chez nous en Europe. Mais si vous savez que cette marque vend en Chine, nécessairement, obligatoirement, quoi qu'elle dise, alors elle peut faire du greenwashing tant qu'elle veut, elle fait des tests sur les animaux. Donc, d'où l'importance de l'information. Et effectivement, contre, je veux dire... tester des produits cosmétiques sur des animaux. Bon, voilà, c'est une catastrophe, c'est un non-sens, de quel droit ?
Comme les tests de laboratoire aussi, qui en fait entraînent une très grande souffrance des animaux. On sait sur les chiens, sur des singes, il faut arrêter l'expérimentation animale. Surtout qu'il y a des modèles qui peuvent servir pour les tests. Et bien, il faut arrêter l'expérimentation animale. On ne peut être que contre.
Que pensez-vous des animaux utilisés comme armes ?
Les animaux utilisés comme armes. Alors, on peut penser que c'est un micro-phénomène parce que le droit considère l'animal comme un être sensible, d'accord, mais aussi comme une arme par destination. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a du mordant, on va dire les choses comme ça, un animal est susceptible de blesser, est susceptible de faire du mal. On a vu même des gens mourir suite à des attaques de chiens. Donc c'est une circonstance aggravante des faits de violence. Et je dirais que pour aller plus loin, un animal qui est susceptible d'être une arme ne doit pas être mis entre toutes les mains. Donc on doit effectivement s'assurer qu'on... Des animaux, moi je parle des animaux catégorisés, des chiens, c'est surtout les chiens catégorisés, catégorie 1 ou catégorie 2, des chiens d'attaque ou de défense. Normalement, le législateur, la loi exige que ces animaux soient soumis à un certain nombre de règles, en termes d'assurance, en termes de vaccination, en termes de certificat de capacité. Normalement, ça ne devrait pas exister. Mais là encore, c'est une question aussi de volonté, parce qu'on sait que ces animaux existent à certains endroits, entre certaines mains, dans certaines cités, et qu'il s'en fait un trafic extrêmement juteux. Avec le trafic animal... Ça, je l'ai appris, mais c'est avec le trafic de stupéfiants et le trafic d'armes, en ce qui concerne les animaux sauvages, alors là, je déborde, mais c'est un des trois trafics les plus importants au niveau international. Voilà, donc là, je déborde en ce qui concerne les chiens de défense, mais bon, voilà, pour vous indiquer que effectivement, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi.
D'accord. Êtes-vous déjà intervenu dans des zoos ou des cirques, par exemple ?
Alors, pour ne pas y aller, ça, c'est sûr. On a tenté effectivement de mettre des pétitions en place parce que pour nous, clairement, la place d'un animal sauvage n'est pas sur un ballon et le reste du temps dans une petite cage de 5 mètres sur 3 à tourner en rond, comme on le fait avec certains grands fauves, comme on le fait avec des éléphants, comme on le fait avec des hippopotames. Donc c'est très compliqué. Je crois que la première des choses, c'est si les gens arrêtaient tout simplement de se rendre dans ces cirques ou pour arriver à ce que des animaux fassent des choses qu'ils ne savent pas faire dans la nature, on casse leur volonté, on les maltraite, on les brise et ensuite on les enferme dans des cages. Déjà, je pense que les choses progresseraient. Donc, on tente effectivement de faire quelque chose, mais il faut compter sur ce qu'on appelle la tradition circassienne, qui est bien établie. Et les circassiens veulent garder leurs animaux, veulent continuer effectivement ce type de pratique, alors qu'on sait depuis un certain nombre d'années maintenant qu'on peut avoir des spectacles, qu'on peut avoir même du cirque, sans souffrance animale, sans présence d'animal sur une scène. Normalement, alors, la législation dépend effectivement des communes, mais beaucoup de communes en ce moment interdisent sur leur circonscription, sur leur territoire, la présence de cirques avec animaux. Beaucoup de maires ont ce courage de se heurter effectivement aux circassiens qui ne sont pas toujours de bonne volonté et peuvent parfois se montrer violents et menaçants pour passer outre effectivement les arrêtés municipaux. Donc je crois que le rôle de la population est d'appuyer ces volontés politiques, ces volontés de ces maires, en ne se rendant pas, en n'emmenant pas des enfants, en faisant croire à des enfants qu'un tigre, ça passe au milieu d'un cerceau enflammé. Non, un tigre, c'est un animal sauvage. C'est un animal qui a sa place dans sa jungle. Il n'a pas à être enfermé dans une cage et puis à distraire les gens. Il y a d'autres sujets de distraction, amenez-les au cinéma, je ne sais pas moi.
Il y a une cinquantaine de villes qui s'opposent à l'installation des cirques, notamment les grosses villes comme Lyon, Marseille. C'est interdit. Même alors ici, c'est pas tout à fait clair.
Alors on a interpellé la mairie.
C'est toléré s'il n'y a pas de... on a eu le cas l'année dernière d'un cirque avec animaux qui s'était installé du côté de la Foire Expo. Et on a interpellé la mairie parce que on pensait que la présence des cirques était interdite à Nevers. Ce qui n'est pas le cas parce qu'ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas de souffrance animale. Mais bon, comment prouver qu'il n'y a pas de souffrance animale? Donc, on est intervenu, on a été voir la mairie qui a envoyé un vétérinaire en disant il n'y a pas de souffrance animale, on tolère. Mais il y a d'autres villes qui ont pris nettement position. C'est clair, il n'y a pas de cirque avec animaux, c'est interdit, ils ne s'installent pas. Donc, nous, on est tout à fait opposés au cirque avec animaux.
Enfin, vous est-il déjà arrivé d'être malmené lors d'interventions et éventuellement avez-vous peut-être une anecdote à nous raconter ?
Ben, on a une petite anecdote. On l'a fait une fois, mais pas deux. Parce que bon, on s'est rendu. On est souvent appelé par des témoins qui, en fait, s'est aperçu que un troupeau de vaches était assez amaigri, n'avait pas de point d'eau, n'avait pas assez d'aliments. On s'est rendu sur place, on a pris des photos, on a pris contact avec le maire. Le problème, c'est que l'adjoint du maire était propriétaire de ce troupeau. Donc, ils nous attendaient depuis un moment, donc on avait pris rendez-vous avec eux, ce qu'on ne savait pas. Et ça a été très, très difficile et très violent. Donc, on a un organisme à Nevers qui a des vétérinaires spécialisés, qui est la DDCSPP, donc la protection des populations de la Nièvre, et qui s'occupe de la maltraitance animale au niveau des animaux d'élevage. Et là, ils ont des vétérinaires spécialisés, mais bon, ils étaient très agressifs et ils nous ont quand même bien prévenu que si on revenait, ça serait avec le fusil qu'on serait accueillis. Donc on est venu une fois, mais pas deux fois. Donc voilà, c'était assez violent.
Mais du coup, les vaches, elles n'ont pas été...
Après, nous, alors ce qu'on a fait, c'est on a pris contact avec la DDCSPP, donc qui est l'organisme spécialisé, et les vétérinaires pouvaient se rendre sur place. C'était un tout autre langage.
Voilà, notre émission est maintenant terminée. Merci à toutes les deux pour vos réponses. On vous dit à bientôt sur BAC FM, mais en attendant, on continue en musique. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.